Donc on est vraiment très heureux de recevoir Mgr Charles Belmalouf, qui travaille beaucoup avec Mgr Wollnisch, qui va se présenter lui-même, parce que je vais m'emmêler dans les... mais donc archimandrite, c'est ça, exarchimandrite en France, de l'église Melkite. Qui a longtemps enseigné à la Société de Paris et vous avez rappelé un mot de ses recherches. Il prend une nouvelle orientation. Voilà. Donc, l'idée, c'est que de 1h30, l'après-midi, c'est 1h30, 4h. Mgr Wollnisch reviendra pour la deuxième moitié de l'après-midi. Entre-temps, il y aura une petite pause. Et ben, ce matin, vous n'avez pas eu beaucoup l'occasion de poser vos questions. Donc là, je crois que le père Charbel est tout à fait désireux de les entendre. Si vous en avez, donc n'hésitez pas cette fois-ci à poser vos questions.
Parfait. Merci beaucoup pour votre hôte. Alors, très heureux d'être parmi vous. Vous m'entendez, ça va ? Voilà, merci pour l'invitation et très heureux de découvrir ce que vous faites. Et le sujet qui m'a été demandé, c'était de vous parler des pères de l'Église. Vous les connaissez ? Vous avez entendu parler quand même des pères. Et bien, je vais revenir un peu sur toutes ces notions, les pères de l'Église, qui sont-ils ? Quels sont les critères ? Pour considérer un écrivain, un auteur, comme père de l'Église. Et je vais prendre un seul exemple, une seule figure, Jean Damascène. On ne peut pas tout dire, hein, vous voyez, j'ai une heure, et même pas. Je vais laisser un peu de temps pour les questions. Et je vais aborder même Jean Damascène avec un point, c'est le culte rendu aux icônes. Donc, le sens ou la spiritualité, la théologie de l'icône dans les églises orientales, dans la tradition orientale. Ça vous va ?
Oui.
Vous avez bu votre café ?
Oui.
Donc vous allez me suivre ?
Oui.
C'est pas un café du panier.
C'est pas grave, moi. Il y a des énergies quand même. Très bien. Donc, d'abord, quand on parle des pères de l'Église, il y a quatre critères pour reconnaître un auteur de l'Antiquité comme un père de l'Église. Quels sont ces quatre critères ? Les critères sont, d'abord, le premier, c'est l'Antiquité. Donc, pour considérer quelqu'un comme père de l'Église, il doit appartenir à l'Antiquité chrétienne. Donc, l'Antiquité chrétienne va jusqu'au 7e siècle en Occident, et le dernier, c'est Isidore de Séville, mort en 636, et le dernier en Orient, c'est Jean Damascène, dont je vais vous parler, qui est mort en 750. Donc, 8e siècle en Orient, 7e siècle en Occident. Je reviendrai sur cette classification. Je vous donne la règle, je vous donne le moyen de la critiquer. Deuxième élément, il doit être considéré comme un saint, donc un saint de l'Église. Évidemment, à cette époque, il n'y a pas des procédures comme aujourd'hui à Rome, hein. Donc il ne faut pas imaginer les procédures romaines. Mais au moins qu'il soit considéré par sa communauté, son Église, comme un témoin de la foi. Et donc vénéré comme un saint. Troisième élément, c'est ce qu'on appelle l'orthodoxie de ses écrits. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que ses écrits ne contiennent pas d'hérésie. Parce que sinon, il serait, bien sûr, considéré comme hérétique. Donc, il ne faut pas qu'il soit hérétique. Et quatrième critère, c'est l'approbation de l'Église. C'est-à-dire que l'Église a approuvé son enseignement dans un synode, dans un concile écuménique. Elle a repris ses grandes idées dans des documents un peu, disons, officiels, des décrets de concile, de synode, etc. Voilà donc les quatre critères. Je les répète, l'antiquité, la sainteté, l'orthodoxie de la foi et l'approbation de l'Église. C'est clair, je pense. Hein. On est bien d'accord. Sauf que cette classification est très occidentale et très catholique. Alors, les orientaux que vous êtes en train de découvrir en cette journée ne sont pas d'accord. Parce que, justement, on a des auteurs, puis on a, je pense, tout simplement, une expérience, une histoire complètement différente. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes tous de la même couleur, de la même approche, etc., etc. Donc, je pense que le premier critère pose problème pour les orientaux. C'est-à-dire, le fait de dire qu'on s'arrête au 8e siècle et au 7e siècle en Occident, pour les orientaux, qu'ils soient des orthodoxes ou des catholiques orientaux, des arméniens, des coptes, des syriaques, des métis, on se dit, en fait, on n'a pas cette classification. Parce qu'on n'a pas le même trajet dans l'histoire, si je peux dire. On a une histoire complètement différente. Vous avez connu après une petite décadence, puis le Moyen-Âge, alors que nous, on n'a pas connu tout cela. Okay. Donc, je pense qu'il faut être très prudent avec cette classification, même si c'est la classification, disons, officielle et même universitaire. Quand j'enseigne à la Cato, ou ailleurs, je dis la même chose. Sauf que maintenant, je vous dirai à la fin que je travaille sur les pères arabes. Et le premier père qui a écrit en arabe, c'est après Jean Damascène. C'est son disciple. Alors pourquoi on va considérer Jean Damascène comme père de l'Église et son disciple non? C'est aléatoire comme critère. Je reviendrai à la fin. Donc, voilà un peu les quatre critères. Donc, s'il y a un père de l'Église, enfin un écrivain, disons, qui appartient à l'Antiquité, mais qui n'est pas saint, qui a été condamné pour une raison ou une autre dans un concile, dans un synode, par son Église, eh bien, il n'est pas considéré comme père de l'Église. Nous avons quelques exemples, je ne sais pas si vous connaissez, Tertullien. Il est un grand écrivain, grand théologien, le premier qui va écrire en latin, qui va forger tout un vocabulaire théologique latin, sauf qu'à la fin de sa vie, il a viré dans un montanisme, disons du point de vue moral, très rigoureux. Et là, bien sûr, il y a tout un problème avec Tertullien. Origène, alors, si je ne peux pas entrer dans les détails, je vous donne quelques noms qui ont marqué quand même l'Antiquité, et sont des grands, grands penseurs de l'Antiquité, que ce soit en Orient ou en Occident, mais qui ont été condamnés pour une raison ou une autre, et donc ils ne sont pas saints. Alors, ces gens-là restent quand même des grands penseurs, quand on dit quand même les pères de l'Église, c'est-à-dire tous ces grands penseurs de notre histoire, dans nos traditions différentes, on les considère comme écrivains ecclésiastiques. Voilà l'appellation. Donc, c'est un écrivain qui a donné beaucoup de choses à l'Église, mais ce n'est pas un père de l'Église, justement parce qu'il n'est pas considéré comme saint. Est-ce que c'est clair? Après, il y a une autre appellation qui va se greffer à toute cette histoire, et que vous connaissez d'ailleurs, et cette appellation est très récente et très catholique. C'est docteur de l'Église. Et là, évidemment, il y a des pères qui sont des docteurs, comme Augustin, comme Basile de Césarée, comme Athanase d'Alexandrie et bien d'autres. Et puis il y a des saints et des saintes récents dans l'Église qui sont considérés comme des docteurs. Sainte Thérèse, par exemple, de Lisieux, elle est docteur de l'Église, mais elle n'est pas père de l'Église, ni mère de l'Église. Donc ne vous posez pas la question sur la mère de l'Église, parce que je vois que ça peut arriver, ça n'existe pas. Mais, bien sûr, on a beaucoup de saintes qui ont donné beaucoup de choses à l'Église, mais le titre, l'appellation en tant que telle n'existe pas. C'est comme ça. Peut-être il faut rectifier. Mais en tout cas, je pense que l'appellation docteur de l'Église vient combler un vide quand même. Hein. Parce que si on s'arrête au 7e, 8e siècle dans l'Église catholique, on fait quoi de tous ces gens qui viennent après? Et pourquoi pas aussi les femmes qui ont donné que ce soit des écrits ou qui ont donné par leur exemple, leur sainteté, un exemple dans leur communauté, dans leur tradition, dans leurs églises. Qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que l'appellation, le titre docteur de l'Église a une utilité de combler ce vide. Voilà donc un peu ce qu'on pense quand on parle des pères de l'Église. Évidemment, il y a aussi plusieurs générations, je ne vais pas entrer dans tous les détails des pères de l'Église, mais je vais vous donner quelques repères historiques. Vous connaissez les conciles? Par cœur. Allez, aidez-moi parce que ma mémoire commence à s'affiner. Quel est le premier concile œcuménique? Oh, très bien. Donc,
ils ont fait le sif.
Ah bah, je signe. Hein. Jusqu'à là, parfait. Donc, on peut considérer tous les pères qui ont existé avant Nicée, 325, comme les pères anté-nicéens. Ok? Donc ceux qui ont, bien sûr, été, qui existaient, qui vivaient avant ces premiers. Et là, on a deux appellations. Les pères apostoliques et les pères apologètes. On peut avoir aussi, on peut être les deux. Qu'est-ce qu'un père apostolique? Un père apostolique, c'est un père qui a connu directement ou indirectement les apôtres, d'où le titre apostolique. Comme, par exemple, Saint Irénée de Lyon, qui a connu Polycarpe de Smyrne, qui Saint Jean, parfait. Voilà donc ce qu'on appelle les pères apostoliques. Après cette première génération, on va voir les pères apologètes ou apologétiques, etc. Qu'est-ce que c'est que l'apologie? Ben, vous connaissez très bien, c'est la défense de la foi. Et donc, beaucoup de pères ont défendu la foi, que ce soit contre les hérétiques, donc je dirais à l'intérieur de l'Église ou à l'extérieur de l'Église. Et là, on a deux grands pôles, le judaïsme et la philosophie grecque, les philosophes ou les païens. D'accord ? Et là, donc, on a bien sûr différents écrits sur les philosophes grecs ou sur cette apologie, la défense de la foi contre les Grecs, contre les Juifs, etc., etc. Et là, on les appelle les pères apologètes. Parce que apologia en grec veut dire défense. Là, par exemple, Tertullien est un père apologète. Justin est un père apologète. Même Origène et bien d'autres. Pas Origène comme père, mais comme écrivain ecclésiastique. Donc, la deuxième génération des pères, ce sont plutôt des pères apologètes qui ont défendu la foi, d'une part contre les hérétiques, au sein du christianisme. On peut commencer par qui, par exemple, les hérétiques? Les premiers.
Arius.
Avant Arius et Arien, les Ariens. Les
Gnoses.
Les Gnostiques. Ah, oui. Ce sont les premiers. Contre qui va écrire notre cher Irénée de Lyon? On est en France et on est à Lyon, presque. Et donc, Irénée de Lyon va écrire contre les Gnostiques. Ils sont nombreux, comme Ptolémée, Basilide, Valentin et bien d'autres. Et surtout, Marcion. Il va refuser l'Ancien Testament et tout ce qui est attrait avec l'Ancien Testament. Vous voyez? Donc, tous ces pères qui ont écrit contre les gnostiques, dont Irénée, Justin et bien d'autres, on les appelle aussi les pères apologètes, puisqu'ils défendent la foi contre ces hérétiques. Donc, le terme peut désigner qu'un père qui a défendu la foi contre des hérétiques, donc des chrétiens, hein, les hérétiques ici sont des chrétiens, hein, Arius est un prêtre d'Alexandrie et bien d'autres, ou bien contre les juifs et les grecs, les païens. Après, à partir de Nicée Ier, c'est un grand concile, comme vous le savez, et c'est un virage dans l'Église, parce que ça a permis beaucoup de choses, entre autres, si vous voulez, c'est pour la première fois, je pense que vous avez étudié cette année Nicée Ier, mais un des acquis de Nicée Ier, c'est que la foi se lit, s'exprime avec des termes philosophiques, de façon officielle. Un terme philosophique, homoousios, qui va permettre à l'Église de dire la foi en Jésus-Christ, qu'il est Dieu, mais c'est un terme qui n'est pas biblique et qui n'est pas du tout théologique, qui le deviendra, bien sûr. Donc, vous voyez, Nicée, quand même, est très important dans la vie de l'Église, puis c'est le premier concile dit écuménique. Il n'y a jamais eu avant, bon, sauf si on veut parler de l'Assemblée des apôtres de Jérusalem, mais bon, même, c'est pas... On dit qu'il y avait 318 pères. Bon, c'est un chiffre aussi symbolique. Peu importe. Mais l'autorité des conciles écuméniques devient quand même une autorité très importante dans l'Église. Et avec Nicée Ier, on a une deuxième génération de pères et de théologiens. Ceux-là sont appelés, si vous voulez, entre Nicée Ier et Chalcédoine. Chalcédoine, c'est quelle année ? 400. Là, c'est une heure même.
La 130.
51. 451. On a vraiment des grands pères de l'Église et des grands théologiens. Et vous savez, cette période est la période qu'on appelle aussi souvent, à tort ou à raison, pour entrer dans les détails, l'âge d'or de la patristique. Parce qu'on a eu les grands penseurs de l'âge patristique, comme Saint Athanase, comme les trois Cappadociens, Basile, Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze, comme Saint Jean Chrysostome, comme Augustin, etc. etc. Et c'est quand même une période très importante dans la vie de l'Église déjà, et dans la patristique. Et donc, on a entre Nicée Ier et Chalcédoine, on a combien de conciles déjà ? Vous voyez, je tente des pièges. Hein. Bon, Nicée Ier, Constantinople, 381, Éphèse, 431, et Chalcédoine, 451. Donc là, on a vraiment plusieurs générations de théologiens, de pères de l'Église, qui vont vraiment donner, si vous voulez, une œuvre théologique, spirituelle, anthropologique, exégétique énorme. Donc, j'ai cité quelques noms. Après Chalcédoine, c'est la fin, ce qu'on appelle la fin de l'âge patristique, donc entre Chalcédoine, de 451 jusqu'au 7e siècle, comme je dis tout à l'heure, en Occident, avec Isidore de Séville, 636, et en Orient, avec Jean Damascène, 750. C'est la fin de l'âge patristique. Et on a bien sûr quelques noms, comme Léon le Grand, comme Grégoire le Grand, comme Maxime le Confesseur en Orient, et Jean Damascène, qui est considéré comme le dernier père parmi les pères orientaux. Est-ce que ça va jusque-là ? Parfait. Voilà quelques remarques donc sur la patristique. Après, en français, juste
quand,
pour
quand
vous
est-ce
dire...
Quand ouais. est-ce qu'est née cette notion de père de l'Église ?
Alors,
dans
voilà,
cette histoire.
J'allais dire un mot là-dessus, merci. La notion de père est une notion déjà biblique. On est bien d'accord. Quand Saint Paul parle « Abba Père », etc., etc. Donc, cette notion est récente, même si elle est quand même en usage déjà dans la Bible, chez Saint Paul, et surtout dans la première, disons, vie de l'Église. Surtout dans le désert. Dans le désert, Donc dans le monachisme, disons au 2e, 3e siècle, on parle de Abba, de père spirituel. Le père spirituel est celui qui engendre un fils, le spirituel. Donc qui l'accompagne sur le chemin de la foi pour qu'il grandisse et pour qu'il arrive à la perfection. D'accord ? Donc si vous voulez, la notion de père, qui est biblique, encore une fois, a été utilisée dans l'Église, d'abord dans le champ ou dans le domaine monastique, et plus précisément hérémétique. D'accord ? À partir justement de Nicée, premier, on commence à parler de père conciliaire. Et donc, la notion de père commence à avoir un sens plus élargi. Ce n'est pas uniquement un père qui accompagne un fils ou un disciple spirituellement, mais aussi ce sont les évêques. Donc, un père, ce sont les évêques qui sont chargés d'enseigner la foi chrétienne. D'où la notion père appliquée aux évêques. À partir du 4e, 5e siècle, la notion va être encore plus élargie. Et ce ne sont pas uniquement les évêques, et heureusement, parce que ce sont les grands théologiens qui vont recevoir aussi le nom de père, comme les pères de l'Église. Donc à partir du 5e siècle, vous voyez, le terme père est appliqué à un grand théologien qui a donné un enseignement théologique, exégétique, pastoral, moral, tout ce que vous voulez. Et donc, à partir de cette date-là, on a cette notion qui est quand même plus élargie et qui est appliquée au Père de l'Église. Avec cette notion, en français, nous avons deux termes pour désigner cette discipline, parce que c'est une discipline à part entière, hein. Eh bien, ce sont deux termes quand même très récents, 17e, 18e siècle, la patristique et la patrologie. Vous voyez dans les manuels ou dans les articles, la patrologie grecque, la patrologie latine. En fait, ce sont des termes très récents pour désigner cette discipline en théologie. Donc, cette discipline qui a pour objectif d'étudier les pères de l'Église, leurs écrits, que ce soit sur le plan exégétique, comment ils ont lu l'Écriture, comment ils ont prêché l'Écriture. D'ailleurs, si vous remarquez, la plupart de ces pères sont des grands prédicateurs. Qui ont prêché après, ou ils ont commenté, ils ont laissé des écrits sur le livre de la Genèse, sur le Cantique des Cantiques, sur Saint Jean, etc., etc., Saint Paul. Donc, ce sont des grands prédicateurs, et petit à petit, la notion patristique va naître en français pour désigner cette science en théologie qui veut dire uniquement le fait d'étudier des manuscrits et les écrits des pères de l'Église, les premiers penseurs chrétiens. D'accord ? En français, on a donc ces deux termes. La patrologie, c'est un substantif, la patrologie, alors que la patristique, c'est à la fois substantif et adjectif. Je peux dire la période patristique. Je ne peux pas dire la période patrologique. Ça n'existe pas. Pas encore, peut-être. Mais en tout cas, voilà. Ce sont les trois notions qui sont intéressantes dans cette discipline. Les pères de l'Église, la notion d'expression des pères de l'Église, docteur de l'Église, que j'ai déjà abordé, patristique et patrologie. Est-ce que c'est clair ? Après ces remarques introductives, maintenant on va aller au vif du sujet. Alors, je vais aborder avec vous un père de l'Église orientale, si vous êtes sur les chrétiens d'Orient aujourd'hui. Pas aborder avec vous Augustin, ni Tertullien. J'aurais pu aborder Saint-Irénée de Lyon. Hein. Il n'est pas de Lyon. Vous l'avez adopté. Il est d'Azimir. Bref, je vais aborder avec vous une des grandes figures des pères orientaux, Saint Jean Damascène. Je vais donner quelques repères historiques pour que quand même vous voyez de qui je parle. Après, je vais aborder avec vous uniquement dans son écrit, dans son œuvre, la question de l'icône, et qui est quand même populaire en Orient, d'ailleurs dans toutes les églises, non seulement de rite byzantin, mais quand même, disons que l'icône la tradition de l'icône, le culte rendu aux icônes, tout cela a commencé avec la tradition byzantine. Après, bien sûr, les Coptes vont reprendre cela, les Arméniens, les Maronites, mais disons que l'icône est le produit de la tradition dite orthodoxe byzantine. Donc, qui est Saint Jean Damascène? Comme le nom indique d'ailleurs, Jean de Damas. Donc il est de Damas. On dit qu'il est né en 650, il est mort en 750. Quand même, il a vécu 100 ans. Hein. Pas mal pour cette époque. Considéré comme le dernier père de l'Église, comme j'ai dit, selon la classification classique, mais qui me paraît contestable, je vous dirai à la fin pourquoi. Donc, Saint Jean Damascène est né dans une famille très aisée, à Damas, mais c'est une famille melkite. Alors le terme ici ne veut pas dire les melkites que nous sommes aujourd'hui. Le terme melkite, je vous rappelle cela, à partir de Chalcédoine, 451, nous avons trois églises qui vont refuser Chalcédoine. Lesquelles? Allez.
Attendez, on est les notes de ce matin. On reprend les notes de ce matin.
Les Arméniens. Non, c'est pas les
Coptes. Les Coptes.
Et les Syriacs.
Les Syriacs.
Trois églises, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Hein. Hier, j'étais en train de parler avec un ami évêque syriaque orthodoxe, je l'ai chauffé un peu. Il m'a dit, mais nous, on n'accepte pas Chalcédoine jusqu'à aujourd'hui. Et nous, dans l'orthodoxie et dans le rite, dans l'Église latine, on est fiers de Chalcédoine. Eux, ils refusent. C'est hérétique. On va rentrer dans tous ces détails aujourd'hui. Mais ces trois églises qui ont refusé pour diverses raisons, hein, Chalcédoine, sont appelées les anciennes églises orthodoxes. Hein, à ne pas confondre avec l'orthodoxie. Attention. L'orthodoxie qui était quand même la tradition de l'Empire à Constantinople. Et d'ailleurs, il n'y a pas de communion entre eux hein, jusqu'à aujourd'hui. Mais, oui, donc il ne faut pas les confondre. Ce n'est pas parce qu'ils sont orthodoxes qu'ils sont tous dans le même panier. Donc, Jean Damascène était melkite. Et je vais vous rappeler que le terme melkite a été inventé par les non-chalcédoniens, par les Syriacs, les Arméniens et les Coptes, pour désigner d'une façon péjorative ceux qui ont accepté Chalcédoine. Donc vous êtes des Melkites, au sens large. Oui. Pourquoi? Parce que le terme Melkite vient de Malko, Malek.
Comment ça s'écrit?
M-E-L-K-I-T-E-S.
M-E-L-K.
Malek, en arabe, c'est l'empereur. C'est-à-dire, vous avez suivi bêtement l'empereur. C'est ça, en fait. Et vous avez accepté Chalcédoine. Nous, non. Donc, les latins et les orthodoxes sont des melkites, au sens large du terme. Alors, Saint Jean Damascène, pour revenir, est un melkite, donc un orthodoxe, de rite byzantin et donc chalcédonien, qui a grandi à Damas, sa famille, ce sont des grands, si vous voulez, fonctionnaires dans la ville de Damas, qui ont travaillé d'abord avec l'Empire byzantin et qui sont devenus aussi les hauts fonctionnaires dans le palais califal musulman. Quand la première dynastie, les Omeyyades, à Damas s'installe, et avec Muawiyah, qui était un des grands et le premier calife sunnite, donc, eh bien, Muawiyah, il va prendre le grand-père de Jean Damascène, le père de Jean Damascène, puis après il va mourir, bien sûr, les successeurs. Jean Damascène vont tous travailler au palais califal. Ils vont être le bras droit du calife. Et là, mais entre guillemets, et je ferme la parenthèse, les chrétiens étaient quand même les grands fonctionnaires dans le palais califal musulman. Et ce n'est pas tout de suite que les musulmans ont commencé à persécuter les chrétiens. Je ferme la parenthèse. Donc, Jean Damascène a travaillé comme son père dans le palais, jusqu'à ce que un calife, là pour le coup fanatique, Yézid II, sort un décret en 715 en disant, c'est très simple, si vous voulez rester fonctionnaire, vous vous convertissez, ou bien vous quittez votre poste. Donc les fonctionnaires maintenant doivent être tous musulmans. C'est là, vous voyez, quand même comment ça évolue les choses. Et donc, Jean Damascène, il dit, si c'est le cas, voilà, je démissionne et je pars. Donc, il démissionne et il quitte Damas. Il va en Palestine et il devient moine dans le grand monastère de Saint-Saba. Et jusqu'à sa mort, là-bas. Après, il devient un grand théologien, puisqu'il va, c'est à partir de là qu'il va commencer à écrire. Heureusement qu'il a été donc chassé, parce que sinon on n'aurait pas pu avoir ce qu'il a écrit. L'intérêt de Saint Jean Damascène, c'est, bon, c'est une grande synthèse théologique qu'il va laisser, et surtout sur deux points, mais je ne vais pas aborder avec vous le premier point, sur l'islam. C'est le premier auteur qui écrit deux traités sur l'islam, qui sont traduits d'ailleurs dans Sources chrétiennes, les écrits sur l'islam. Mais aussi, Jean Damascène, et c'est là où je vais aborder avec vous sa théologie, sa pensée et son œuvre, il est un des grands penseurs théologiens qui va défendre le culte rendu aux Écritures. Et il va laisser tout un ouvrage, qui n'est pas encore traduit d'ailleurs en entier en français, sur les trois discours sur l'image. Les trois discours sur l'image. Alors là, je vais vous introduire un peu à ce qu'on appelle l'iconoclasme, n'est-ce pas, parce qu'on est plein dedans. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais quand même, l'iconoclasme commence à peu près avec l'empereur Léon III, qui est d'origine syrienne, et qui considère que le culte rendu aux icônes est un culte idolâtrique. Et donc, qui publie un édit en 726 interdisant tout culte rendu aux icônes. Et là, il commence, lui et puis les soldats, à casser, à détruire, à brûler les icônes. Je ne vais pas, encore une fois, rentrer avec tous les noms, etc., ce n'est pas la peine. Mais un des grands, disons, un des arguments majeurs lancés par ces iconoclastes, c'est de dire, en fait, le fait de rendre un culte aux images, c'est un fait idolâtrique. Et donc, si vous êtes devant une icône, vous prosternez devant une icône, vous priez devant une icône, vous encensez une icône, vous brûlez un cierge devant une icône, en fait, tout cela, c'est de l'idolâtrie. Et c'est là où, en fait, le débat devient plus théologique, n'est-ce pas, et, disons, théorique. Jean Damascène va être donc une des grandes figures qui va défendre le culte rendu aux icônes et en écrivant un traité, les trois discours sur les images. On situe ce traité entre 726 et 730. Et là, évidemment, donc, il est considéré comme une des grandes figures, un des grands pères qui a défendu la théologie et la spiritualité de l'icône. Après, bien sûr, je reviendrai à Saint-Jean, mais le concile de Nicée II, qui est le dernier concile dit écuménique, en 787, va réhabiliter le culte rendu aux icônes. Et ce concile va, en fait, prendre l'enseignement de Jean Damascène. Et dans le décret, si vous lisez le décret de Nicée II, on voit toute l'argumentation et toute la théologie de Saint Jean Damascène. C'est pour cela, dans la tradition byzantine, Saint Jean Damascène est un grand saint et il est quand même un des grands théologiens, puisqu'il a donné justement cet enseignement théologique et spirituel à la fois concernant les icônes. Alors maintenant, je vais revenir un peu aux arguments majeurs des iconoclastes et comment Jean va répondre aux iconoclastes. Et après, je laisse un temps pour des questions. Ça vous va? Vous me suivez encore? Pas fatigué? Bon, parfait. Alors, quels sont les arguments majeurs? Quand je dis des iconoclastes, c'est-à-dire ceux qui refusent le culte rendu aux icônes. D'accord? D'abord, on peut signaler deux raisons ou deux arguments, disons, lointains ou indirects. D'abord, l'interdiction du décalogue dans l'Ancien Testament. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne te feras pas d'image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux en dessous de la terre. Exode 23. L'interdiction donc de l'Ancien Testament, surtout donc dans Exode et Deutéronome 5, 8, 9, consiste en fait pour les Juifs à réfuter toute représentation de Dieu. Parce que toute représentation de Dieu est fondamentalement une forme d'idolâtrie. Et donc, le judaïsme va prescrire de représenter Yahvé moyennant l'image. Parce que l'image, pour le judaïsme, est une forme d'idolâtrie. Si on continue dans la même lancée, l'islam, en fait, est dans la même pensée. C'est pas uniquement sur ça où on voit un rapprochement, mais en tout cas, là-dessus, il y a un rapprochement. L'islam refuse, quant à lui, toute représentation de Allah, de Dieu. Et toute représentation de Dieu est une idolâtrie. Et là-dessus, je pense que le judaïsme et l'islam se rejoignent. Hein? Je pense qu'ils se rejoignent sur beaucoup de choses d'ailleurs, mais sur la transcendance de Dieu. Alors que le christianisme, c'est là où il y a une vraie démarcation de la, disons, de la pensée chrétienne, c'est que nous ne sommes pas uniquement dans la transcendance. On est dans la transcendance et l'immanence. Et c'est ce qui change tout. Alors que le judaïsme et l'islam, ce sont uniquement dans la transcendance. Et vous voyez les conséquences de cette vision sur le culte rendu aux icônes. Après cela, il y a eu bien sûr dans l'histoire byzantine, des églises byzantines, il y a eu quand même des excès. Je vous donne un exemple. Un prêtre, ça c'est réel, c'est rapporté historiquement. Il y avait des prêtres, en célébrant la liturgie, donc la messe, ils frottaient de l'icône, de la coule des couleurs, etc., dans le sang du Christ. Pour dire que, voilà, il faut rendre encore plus saint le sang du Christ, et bien ils frottaient, ils mélangeaient. Ça, c'est bien sûr un acte excessif. Mais il y a eu beaucoup d'actes comme ça, ce qui, tout cela a amené à l'iconoclaste. Donc, pour les iconoclastes, le culte rendu aux icônes est un culte idolâtrique. Et la seule image véritable du Christ, c'est l'Eucharistie. Toute autre image fait tomber le chrétien dans un acte idolâtrique. Alors maintenant, je vais passer un peu aux arguments majeurs de ce qu'on appelle les iconophiles, donc ceux qui défendent les icônes. D'abord, l'argument patristique. Donc, Saint Jean va nous dire, en fait, les pères de l'Église ont défendu le culte rendu aux icônes. C'est ce qu'on appelle l'argument patristique, c'est-à-dire les pères, depuis le 3e, 4e siècle, ont été favorables à ce culte. Et donc, on peut aussi imaginer, vous voyez, l'argument de la tradition qui sort ici. La tradition a accepté, voire même encouragé, le culte rendu aux icônes. Pourquoi aujourd'hui, alors, l'interdire? ça va contre la tradition. Et Saint Jean, ici, en fait, fait appel à Saint Basile. Saint Basile, est-ce qu'on peut maintenant projeter le texte? Comme ça, vous me suivez, parce que c'est un texte assez important. Et je vais vous montrer comment Saint Jean cite Basile, sort le texte de Basile de son contexte et l'applique complètement au contexte de l'iconoclaste. Alors voilà, ça prend. Est-ce que vous voyez encore? Je pense qu'il y a beaucoup de lumière. Non,
il faut travailler. Ah,
il y a une sieste aussi.
Voilà. Ben voilà. Je vais lire avec vous ce texte. Dans son traité, vous voyez, hein, sur le Saint-Esprit, donc Basile écrit tout un traité magnifique sur le Saint-Esprit, hein, pour défendre la divinité de l'Esprit Saint. Bon, donc c'est un autre contexte, on est bien d'accord. Basile affirme au sujet du Père et du Fils. Je lis le texte. Hein. Le Fils est en effet dans le Père et le Père dans le Fils. Puisque tel est celui-ci, tel est celui-là. Et celui-là, celui-ci. Et quand cela, ils ne font qu'un. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir au texte, l'expliquer. Selon la propriété des personnes, vous voyez en grec, prosopon, donc je ne vais pas entrer dans le grec, ils sont un et un. Mais selon leur nature commune, les deux ne sont qu'un. Comment donc, s'ils sont un et un, n'y a-t-il pas de Dieu? Parce que l'image et l'icône, vous voyez en grec, du roi, on l'appelle roi aussi. Et qu'on ne dit pas de roi. Leur pouvoir royal ne se dédouble pas. La gloire ne se divise pas. De même qu'il n'y a qu'une seule autorité sur nous, et que le pouvoir en est unique, de même, la gloire que nous lui rendons est-elle unique et non multiple, parce que l'honneur, attention à cette phrase, l'honneur rendu à l'image passe au prototype. Ce que l'image est là par imitation, le Fils l'est ici par nature. Et de même que, en art, la ressemblance se prend sur la forme, ainsi, pour la nature divine, qui est simple, c'est dans la communauté de la déité que réside le principe d'unité. Alors, c'est la fin de la citation. Suivez-moi. On revient. Donc, je vous ai dit, Basile écrit dans un contexte où il y avait des gens qui mettaient en cause, bon, vous connaissez un peu les Ariens, la divinité du Fils et la divinité de l'Esprit-Saint. D'accord? Ici, dans ce texte, je vais vous expliquer un peu ce qui est dit, mais je ne vais pas rester sur Basile parce que ce qui m'intéresse, l'application de ce texte dans le contexte iconoclaste. Il dit en fait, le Père et le Fils sont un et un. Si on les prend selon la personne, ils ne sont pas la même personne, on est bien d'accord. Vous êtes d'accord? Le Père est Père, le Fils est Fils. Donc quand je parle un et un, ils sont deux. Et si je parle de la nature commune, l'un et l'un font un. Donc, ils sont de la même nature. Il n'y a pas de nature divine. C'est ce qu'il dit. Donc, de la même chose, maintenant on va appliquer en fait la question sur l'image. Supposons qu'on est dans une royauté et qu'il y a le roi. Si je mets la photo du roi ici, est-ce qu'il y aurait deux rois ou deux pouvoirs? Ben non, c'est la photo du roi. C'est le même pouvoir, c'est la même personne. Et c'est là où la phrase qui va nous intéresser et qui va être reprise telle quelle par Jean Damascène l'honneur rendu à l'image passe au prototype. Donc si je suis devant l'image du roi et je rends hommage à l'image, c'est pas à l'image que je rends gloire ou je rends honneur, c'est au roi lui-même. Donc l'honneur rendu à la photo, à l'image, à l'icône, passe au prototype. Donc le prototype, c'est le roi, c'est pas ce que je vois ici dans la photo. Appliquez cela sur l'icône. Je vais l'appliquer avec vous. Si je suis devant l'icône de la Vierge, d'accord? Bleu, noir, elle est belle, avec son enfant, ok? Il y a du doré, du bois magnifique. Le culte que je rends à la Vierge, ce n'est pas au bois que je rends. Ce n'est pas à la photo qui est devant moi. Ce n'est pas au rouge, au bleu, au doré. C'est au prototype, c'est à la Vierge Marie elle-même. Voilà le sens de cette expression. Et donc Jean Damascène va prendre cette phrase, il va l'appliquer à l'iconoclasme et aux icônes. Quand vous êtes en train de prier devant une icône, Sainte Vierge, je ne sais pas moi, Saint Bernard, Saint Basile, Saint Augustin, ben ce n'est pas le bois que vous vénérez, ce n'est pas les couleurs que vous vénérez, c'est Saint Augustin lui-même, c'est Saint Basile lui-même. Voilà donc la première, le premier argument que Saint Jean Damascène va développer dans son écrit en reprenant Saint Basile. Deuxième distinction, et là jusque-là, vous voyez, Nicée II va reprendre l'enseignement théologique de Jean tel qu'il est, et jusqu'à aujourd'hui, dans les églises orientales, byzantines ou autres, c'est le même enseignement. Quand vous voyez les orientaux devant les images, c'est pas l'image qui est devant moi, c'est le prototype que je vénère. Et la deuxième distinction, pour dire que, en fait, le culte rendu aux icônes n'est pas un culte idolâtrique, c'est que, et là, il faut retenir les deux mots, devant une icône, l'acte que je fais dépend du prototype. C'est-à-dire, si c'est le Christ, ou le Père, ou l'Esprit, ou la Trinité, je suis dans un acte d'adoration. À part ça, je suis dans un acte de vénération. C'est pour ça que les orientaux vont vous dire, on vénère une icône, on n'adore jamais une icône. Et donc ça change tout. Ils ne peuvent plus dire, les iconoclastes, quand je vénère une icône, je suis devant un acte idolâtrique. Parce que c'est quoi une idolâtrie? Qu'est-ce que c'est qu'une idolâtrie? Dites-moi, adorer un autre Dieu à la place du véritable. Ben moi, je ne suis pas dans un acte d'adoration, chers amis. Je vénère, c'est tout. Et donc, ça change tout. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, dans toutes les églises orientales, byzantines, maronites, syriaques, vous voulez, c'est le même enseignement de Jean Damascène. On vénère une icône, on ne n'adore jamais une icône. On se prosterne devant toutes les icônes, tout ce que vous voulez, mais cette prosternation n'est pas désignée comme adoration, mais comme vénération. Et quand je vénère pas le bois, la matière, les couleurs, ni l'iconographe, je vénère le prototype qui est représenté dans cette icône ou dans cette image. Est-ce que c'est clair? Oui.
C'est-à-dire qu'à travers, par exemple, l'icône de la Trinité, on ne peut pas adorer la Trinité.
Seule la Trinité, j'adore la Trinité. Ah. Parce que c'est Dieu.
J'ai bien compris. En regardant l'icône, je n'énerve pas l'icône, j'essaye d'adorer la Trinité.
Bien sûr.
Donc il y a bien adoration.
Bien sûr. La croix, Jésus, la Trinité, là, vous êtes dans un acte d'adoration. Parce qu'il est question de Dieu lui-même. À part ça, toute prosternation, toute prière, tout acte liturgique, que ce soit encensement, siège allumé, tout ce que vous voulez, ce sont des vénérations.
Même pour la Vierge.
Bien sûr, la Vierge n'est pas Dieu. On est bien d'accord, la Vierge reste un être humain. Elle n'est pas Dieu, elle ne fait pas partie de la Trinité. Et donc, c'est un acte de vénération.
Donc toutes les icônes ne sont pas saintes à égalité?
Non, elles sont saintes. C'est pour cela d'ailleurs, on ne vénère pas les icônes tout de suite. Il faut les bénir, il faut le savoir ça. Ce n'est pas parce que je trouve dans une librairie une belle icône ou dans un marché, là, une belle icône du 17e, 18e siècle et que j'achète, tout de suite je commence à prier devant elle. Non, il faut bénir les icônes. Parce que c'est ça ce qui la rend aussi sainte et sanctifiante. Et là, il y a tout un rituel dans les églises orientales pour bénir les icônes. Et d'ailleurs, l'iconographe, le vrai, ce n'est pas celui qui fait des icônes. D'ailleurs, on dit écrire une icône, hein, qui écrit des icônes en écoutant, je ne sais plus quelle musique, il y a de la prière, il y a du jeûne, et il y a de la musique sacrée à écouter pour entrer dans l'icône, dans la vie d'un saint, dans la vie, je ne sais pas, d'une fête, hein, qu'il est en train de décrire, etc. Donc tout cela doit être béni, bien sûr. Donc, une remarque à tout le monde, quand vous achetez une icône, vous ne pouvez pas tout de suite la vénérer. Il faut la bénir avant. Après, bien sûr, vous pouvez la vénérer. Donc prier devant elle, etc. Oui ?
Donc en fait, il peut y avoir deux démarches pour une icône. La vénération d'une icône ou la vénération ou l'adoration de ce que l'icône représente
tout à fait.
En se projetant.
Tout à fait. Oui. Peu importe. De toute façon, vous savez, dans l'art iconographique, il y a bien sûr des écoles, hein, mais l'iconographe du XXe siècle, il ne peut pas inventer comme ça une icône, supposons, de la Nativité ou de Pâques. Il y a un standard, il y a des normes, il faut les respecter. Et donc, il n'y a pas, une liberté d'écrire une icône. Puisque je suis artiste, et ben je vais faire tout ce que je veux. Non, c'est pas du tout dans l'art iconographique. Il y a des règles, des normes, une tradition à respecter. Après, bien sûr, il y a des nuances, etc. Et c'est là où on voit l'auteur de l'icône, quoi, l'iconographe, son talent, sa spiritualité, etc. Mais on ne peut pas inventer n'importe quelle icône comme ça, écrire une icône. Eh ben, j'ai envie d'écrire une icône de, je sais pas moi, de la Dormition, et ben j'invente une icône de la Vierge. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc il y a quand même des règles et des écoles.
Est-ce qu'il existe un rituel de réparation quand les icônes sont profanées?
Oui, bien sûr. D'abord, il faut restaurer. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a un rituel de prière, de bénédiction des icônes. C'est pour ça, j'insiste là-dessus, parce que si vous achetez une icône dans un marché, qui est très belle d'ailleurs, au contraire, il faut les acheter. Mais vous ne pouvez pas, bonjour Monseigneur, vous ne pouvez pas tout de suite vénérer une icône. Il faut qu'elle soit bénie. Et après, bien sûr. Et même pour les églises, quand on fait des nouvelles icônes, ben, il faut les bénir. On ne met pas dans des églises des icônes comme ça, sans bénédiction. Alors après, il y a plusieurs sortes de bénédictions, etc. Il y a des rituels. Mais il faut bénir l'icône pour qu'on puisse prier devant elle. Oui.
Pourquoi est-ce qu'en Occident, on parle si peu des pères de l'église?
Alors, je vais vous dire une chose. Je pense qu'on parle beaucoup. En ce moment, je vous rappelle qu'il faut quand même dire des choses. C'est les pères jésuites qui ont redécouvert les pères de l'Église. Que ce soit en Orient ou en Occident, on était dans un sommeil depuis des siècles et des siècles. Et donc, grâce à Jean Danielou, à Henri de Lubac, et bien sûr, l'aventure source chrétienne, Et puis après, Balthazar et bien d'autres, je cite quelques noms, grâce à eux, que nous, et puis d'ailleurs, ce sont eux qui ont donné cet élan à Vatican II, à travers la théologie patristique, les écrits des pères, etc. Donc je ne suis pas d'accord quand vous dites que l'Occident donne si peu d'importance aux pères de l'Église. C'est, moi, j'ai envie de dire l'inverse. C'est l'Occident, et notamment les théologiens catholiques, entre autres les jésuites, qui ont redécouvert cette théologie et qui ont en fait renouvelé la théologie catholique au XXe siècle. Après, je suis d'accord avec vous, malheureusement, il y a un recul en ce moment, même dans les facultés de théologie. Les pères de l'Église, on les donne ou bien comme dans la dogmatique ou bien dans l'histoire. Et moi, je trouve que là, il y a une erreur fondamentale, parce que les pères sont vraiment une source spirituelle, morale, exégétique, théologique, à elle seule. Il ne faut pas qu'ils soient sous l'égide de la dogmatique ou sous l'égide de l'histoire. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, on est dans cette perspective. Donc moi, j'ai envie de rendre gloire, hommage aux théologiens catholiques, parce que franchement, ce sont eux qui ont renouvelé la théologie, enfin, l'apport à la théologie patristique et qui ont créé tout un tas de collections pour éditer, pour traduire les textes en français, en anglais, en italien. Je vous rappelle qu'en arabe, on n'a pas beaucoup de choses. On a encore les manuscrits. Et c'est bien, mais il faut les étudier, ces manuscrits. Donc l'Occident en tout cas, au XXe siècle, c'est grâce à l'Occident, aux théologiens catholiques, qu'on a eu d'ailleurs ce qu'on appelle le renouveau patristique. Voilà, je termine là-dessus donc. Jean Damascène, un des grands saints de l'Église orientale, et justement, c'est lui qui va laisser ce patrimoine au niveau de la théologie de l'école et qui va être reçu à Nicée II comme l'enseignement de l'Église officielle. Et c'est à partir de là que Saint Jean Damascène deviendra une des grandes références théologiques en Orient. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas.
Sur votre travail à propos de Boucoula,
Oui. Alors, ce que je disais tout à l'heure, maintenant, le critère de l'antiquité, personnellement, je le trouve complètement aléatoire, parce que qu'est-ce qu'on fait avec les pères syriaques? Qu'est-ce qu'on fait avec les pères arabes, ce qu'on appelle les pères arabes? Qu'est-ce qu'on fait avec les pères arméniens, les Guadalarènes, au XIe siècle, etc. Donc je travaille sur Abu Kurra, qui est le disciple de Jean Damascène. Bon, disciple entre guillemets, il a existé 50 ans après lui, puis il a fréquenté Saint Saba. Les pères arabes, c'est à partir de Abu Kurra, Théodore Abu Kurra, donc on est au 8e, 9e siècle, 50 ans après Jean Damascène, qu'on a tout un patrimoine arabe très intéressant, que ce soit théologique, exégétique, mais surtout islamo-chrétien. Ce sont les premiers penseurs, les pères arabes, dont Théodore Abu Kurra, il n'est pas le seul évidemment, il y a beaucoup de historiens, de syriaques et de métiques qui vont écrire en arabe sur l'islam. Parfois vous avez une tonalité complètement amicale, et parfois, bien sûr, c'est un peu apologétique, etc. Peu importe, c'est très important parce que ça nous donne une idée sur nos pères dans la foi. Parce que à partir du 8e, 9e siècle, pratiquement au Proche-Orient, toutes les églises ont arabisé leurs textes, que ce soit liturgique, la Bible, et puis toutes les lettres, pratiquement, même les coptes, commencent à partir du 9e siècle, les patriarches, à écrire en arabe, à s'adresser à leurs fidèles en arabe. Donc on a tout un patrimoine arabe qui est complètement délaissé, qui est uniquement dans les bibliothèques, et là-dessus aussi en français on n'a pratiquement rien. Donc maintenant je suis en train de mener une vraie recherche sur ces manuscrits à l'Institut chrétien d'Orient qu'on a fondé avec l'œuvre d'Orient et avec le soutien de Mgr Gollnisch. Et il me semble que c'est très important parce qu'il va donner, il va ouvrir beaucoup de perspectives, même aux chrétiens et aux musulmans. Je rappelle que les musulmans, à cette époque, on est pendant la période abbasside, donc la période dite l'âge d'or de l'islam. Il y avait ce qu'on appelle les mortazilites, les rationalistes dans l'islam, qui justement critiquaient, dialoguaient, controversaient avec les chrétiens. Donc il y a tout un patrimoine écrit, bien sûr, sur ces questions, sur la Trinité, sur l'incarnation, qui, à mon avis, peut aider, même dans le dialogue islamo-chrétien aujourd'hui, ne serait-ce de dire aux musulmans, vous étiez capable à un moment donné d'être rationaliste. Pourquoi pas aujourd'hui? Au lieu d'être djihadiste, revenez à votre histoire, vous pouvez être rationaliste. On ne va pas devenir musulman, rassurez-vous. Mais au moins, on peut parler d'une façon rationnelle, on peut dialoguer. Et même pour les chrétiens, ne pas dire « Oh, les musulmans sont uniquement des djihadistes, c'est uniquement ceci, uniquement cela. » Non, il y a des musulmans qui prient, il y a des musulmans qui sont bien. Et c'est là où ce patrimoine ouvre des perspectives et pour les chrétiens et pour les musulmans. Et je pense que c'est dans cette perspective, moi, et avec cette équipe de recherche, que je travaille. C'est pour bâtir des ponts et pour que nous soyons tous dans une fraternité, comme le dit le pape, hein, universelle, tout en restant ce que nous sommes, des chrétiens convaincus. Hein. Rien n'empêche d'être chrétien et d'être ouvert à l'islam et à d'autres religions d'ailleurs. Hein. Mais moi je travaille plus sur l'islam et aussi on a plusieurs traités sur le judaïsme arabe. C'est très important. Parce qu'on oublie que les juifs aussi étaient présents dans cette région et ils parlaient arabe. Et donc il y a des correspondances entre les chrétiens, les auteurs, par exemple mon auteur Théodore Kolelaki, au moins 4 traités sur les juifs en arabe. Bon, on va les traduire, il y en a un qui est sur le chantier. Mais ça donne vraiment une idée sur ce qui est ce dialogue. Enfin, je ne vais pas dire dialogue pour ne pas donner beaucoup de... Mais au moins, il y avait une correspondance, et même il y a des lettres ou des correspondances. Le musulman s'adresse au chrétien, mon ami, et le chrétien lui dit, cher ami. Et effectivement, la tonalité est amicale. On peut être ami tout en restant ce que nous sommes, voyez. Donc, il me semble que là, on a un... Et puis, ça donne un champ de recherche sur la patrologie quand même inouï. Je veux bien qu'on travaille sur Grégoire de Nice. Je suis le premier sur Origène, mais on a beaucoup dit sur ces auteurs. Alors que ces auteurs arabes, il n'y a rien là-dessus. Que en anglais. Eh bien, moi, j'aimerais bien que ce soit en français. Voilà. Merci.